It's Morning Edition from NPR News.
Wenn Sie hinsan in der Haus.
France Inter, le 18-20.
Nous avons les théories fumeuses du grand remplacement. Le politologue Yasha Monk nous propose la grande expérience ou comment les démocraties peuvent vivre avec le multiculturalisme, même si parfois ça ne va pas. Soit il propose des pistes, il donne des clés, nous aide à explorer nos propres démocraties. On parlera un peu d'Amérique ensemble également. Le bruit du monde ce soir est en Israël. Vous verrez comment une histoire d'arbre planté dans le désert du Negev a un agenda caché bien plus expansionniste et peut même fragiliser la coalition au pouvoir. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Sébastien Nogénie a trouvé des policiers qui font de la reconquête sociale dans une favela, des lettres que l'on ajoute à l'alphabet lituanien et une école de cinéma qui voit le jour au Sénégal grâce à l'Adjli du film Les Misérables. À 18h50, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, comme je dis avec Angélique Boin. Nous reviendrons sur le très court passage dans le discours d'Emmanuel Macron hier sur l'avortement. Est-ce que ça nous dit? Et puis 18h55, Le Monde d'après de Jean-Marc Four, l'étrange aveu de Joe Biden sur l'Ukraine. Est-ce que c'est la parole de l'honnêteté ou est-ce que c'est une maladresse? Jean-Marc nous dira ce qu'il en pense. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabien Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Yasha Monk.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes politologue, vous êtes allemand, mais vous enseignez aux États-Unis à l'université Johns Hopkins de Baltimore. Vous avez les pieds un peu sur les deux continents. Le peuple contre la démocratie, c'était votre ouvrage précédent. Aujourd'hui, vous signez La grande expérience, les démocraties à l'épreuve de la diversité. Chacun sait combien ce thème agite les campagnes et aussi notre campagne électorale. Avec cette grande expérience, Yasha Monk, vous cherchez avec nous, au fond, comment une société comme la nôtre peut à la fois intégrer sa diversité culturelle, puisqu'elle est là et que c'est un fait, mais sans se perdre. Et si on écoute nos politiciens aujourd'hui, dans chacun des pays, on se dit que c'est soit l'un, soit l'autre. Vous vous dites non, c'est pas soit l'un, soit l'autre, c'est au milieu. Et en vous lisant, on se dit qu'il y a un chaînon manquant, et que ce chaînon manquant, c'est le commun, tout simplement.
Oui.
Donc dites-nous, comment on fait émerger ce commun-là? Est-ce que nous l'avons perdu? Est-ce qu'on a toujours refusé de le voir? Est-ce qu'on refuse encore de le voir aujourd'hui? Parce qu'il doit bien être quelque part, quand même.
Bah, ce que je trouve frappant dans le débat sur ce thème, particulièrement en France, c'est qu'on est tous pessimistes. Mm-hmm. Si je regarde la droite politique et la droite extrême politique, elle est extrêmement pessimiste. Elle est en train de dire que la France est en train de faire un suicide, d'être perdue. Parce que les immigrés ne sachent pas s'intégrer, parce que y a juste des problèmes en France. Mais si je regarde certaines voix de la gauche, j'entends aussi qu'il y a juste des problèmes, qu'en fait le pays soit tellement marqué par la discrimination, par les injustices, que de la même manière, les immigrants ne peuvent pas s'intégrer dans nos pays. Si je regarde la réalité des démocraties multiethniques, et toutes grandes démocraties du monde sont aujourd'hui, dans les faits, multiethniques, je vois quelque chose d'un peu plus optimiste. Il y a des grands problèmes, et on ne peut pas les nier, on doit le regarder en face. Mais il y a aussi la création d'une culture commune. Il y a quand même une identité forte qu'on a aussi en commun, dont la grande majorité des citoyens fait partie. Et alors du coup, mon nouveau ouvrage, La Grande Expérience, il essaye de montrer une vision de la société partagée à laquelle la grande majorité de citoyens aurait volonté, dans laquelle la grande majorité des citoyens aurait la volonté de vivre.
Vous dites aussi que la première étape, c'est de sortir du déni, en fait. Vous avez le sentiment qu'on est tous dans le déni, au fond, aussi bien à droite qu'à gauche, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on refuse de voir?
Une chose qu'on refuse de voir, c'est qu'on est vraiment dans une situation inédite. Dans l'histoire du monde, il y a eu beaucoup de sociétés qui ont eu des membres avec des différentes ethnicités, des différentes croyances religieuses. Mais dans la grande partie, ils étaient des dictatures ou des monarchies. Et beaucoup de fois, ils étaient extrêmement injustes. Il y a eu certaines démocraties avec des différents groupes ethniques et religieuses, comme les États-Unis, depuis leur fondation. Mais ils avaient un système de domination dure, avec l'esclavage notamment. Aujourd'hui, pour la première fois, on a des démocraties dans lesquelles on a des citoyens qui viennent de beaucoup de différentes origines, qui ont des différentes croyances religieuses, qui ont des différentes racines culturelles, et on essaye de vivre ensemble en traitant chaque citoyens de manière égale, de manière juste. Et ça, c'est la grande expérience, pas dans le sens du prof de chimie au collège qui démontre une expérience sachant qu'est-ce que c'est le résultat, mais une grande expérience dans le sens dans lequel la Révolution française ou la fondation de la République américaine était une grande expérience.
Mais j'allais vous poser la question justement, parce que quand on parle d'expérience, il y a quelque chose qui dit on essaye, et puis si on n'y arrive pas, on essaiera autre chose. Or là, on ne peut pas essayer autre chose, parce qu'on y est, là, on est à l'intérieur, nos sociétés sont telles qu'elles sont, on ne peut pas sortir en cours de cette expérience.
Oui, du coup, les enjeux de cette situation sont très graves. On est arrivé à cette grande expérience sans que quelqu'un l'avait vraiment choisi. Moi, je viens d'Allemagne, par exemple. Pourquoi l'Allemagne, aujourd'hui, est un pays extrêmement multiethnique? Il n'était pas en 1950, au moment de sa fondation, à cause de l'histoire tragique de la première moitié du XXe siècle. Pourquoi elle est devenue tellement diverse? Parce qu'on a eu des ouvriers italiens, portugais, grecs, turcs, dans les années 50-60, qui ont été emportés pour travailler dans les usines. Il y avait la fiction de la politique allemande qu'ils repartiraient dans leur patrie. Évidemment, ça n'est pas arrivé. Du coup, on est dans une situation inédite.
La plupart des pays d'Europe ont eu, au fond, la même fiction.
Exact. Et alors, on n'a jamais eu vraiment les réceptes pour comment vivre ensemble. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent c'est une situation dangereuse, on n'a pas les réceptes. Alors du coup, peut-être il faut abandonner ce phénomène. Et le problème, ce qui est le point de départ de mon livre, c'est qu'on a eu beaucoup d'exemples dans l'histoire des sociétés multiethniques qui sont devenues monoethniques, qui sont devenues homogènes. Mais ça s'est fait comment? Ça s'est fait par les génocides, ça s'est fait par les guerres civiles, ça s'est fait par les violences et les injustices extrêmement graves. Alors aujourd'hui, un pays comme la France peut, de manière légitime, réfléchir sur combien d'immigrés elle veut accepter dans les années qui viennent. Mais il y a déjà beaucoup de citoyens français, beaucoup de personnes qui ont un titre légal pour vivre dans ce pays, qui ont des différentes racines. Et alors du coup, il nous faut une vision pour comment faire fonctionner ce vivre en commun.
Vous appelez ça le patriotisme inclusif. C'est quoi le patriotisme inclusif? En fait, ça veut dire quoi?
Pour moi, il y a trois notions du patriotisme. Une est ethnique, qui veut dire qu'en fait, le cœur de la nation française, par exemple, ça n'est pas la République, ça n'est pas les valeurs républicaines, c'est juste que l'ethnicité de la majorité, ou la culture historique de la majorité. Pour moi, ça, c'est une erreur, parce que ça exclut beaucoup de citoyens français, et parce que ça se base pas sur ce qui est le plus important, ce qui est le plus grand dans la tradition culturelle et politique française, qui est l'universalisme, qui sont les valeurs républicaines. Deuxièmement, il y a le patriotisme dont on parle normalement, dont moi j'en ai parlé dans le passé. C'est un patriotisme civique qui dit qu'est-ce que c'est être français. C'est aimer les valeurs françaises, aimer Voltaire, être convaincu de la laïcité. Tout ça est important. Mais la majorité des gens n'est pas patriote à cause des valeurs politiques, parce que la majorité des gens ne s'intéressent pas tellement de la politique. Et en fait, ces valeurs-là, elles sont assez similaires en Allemagne, et quand même, un Français ne va pas être patriote allemand parce que les valeurs politiques sont un peu ressemblables en allemand. Alors, qu'est-ce que c'est aussi le patriotisme? Il y a une troisième catégorie qui est un patriotisme culturel. Un amour de ses propres villes, du paysage, de la gastronomie, de la musique, des VIP, même des Instagrammateurs. Mais ce n'est pas juste la culture du passé, ce n'est pas juste la culture de la majorité, c'est la culture vécue, inclusive, diverse, qu'on vit
au
chaque
quotidien
jour en France aujourd'hui.
Et vous dites quand même également que le projet de construire des démocraties multiethniques épanouies implique nécessairement quelques douloureux changements d'habitudes, de récits et de perceptions. Comme quoi, par exemple, hein, sur quoi on doit, je vais le dire comme ça, lâcher du lest, en fait, peut-être?
Moi, je suis né en Allemagne, comme vous l'avez dit. Je viens d'une famille juive, je ne suis pas du tout religieux, mes parents, mes grands-parents non plus d'ailleurs. Mais du coup, c'était certainement important pour moi que le pays a accepté de parler des côtés violents et injustices de son passé. Ce qui ne veut pas du tout dire qu'on ne peut pas être fier d'être allemand.
Ça veut dire se regarder en face, en
fait. Oui, c'est ça. C'est d'être honnête, par exemple, sur son propre passé. Pas pour empêcher aux gens de s'intégrer ou pas du tout pour dire que le pays soit défini par les côtés les plus problématiques de son passé, mais pour rendre plus facile à tous les gens qui sont aujourd'hui citoyens allemands ou en ce cas français de devenir fiers de ce pays, d'adopter une identité en commun.
Mais est-ce qu'il faut des règles claires en fait pour que ça passe? Donc ça veut dire avoir des demandes vis-à-vis de ceux qui arrivent, y compris des demandes d'ailleurs pour ceux qui sont là. Vous dites au sujet de ceux qui arrivent, par exemple, vous expliquez longuement dans ces pages que vous êtes totalement contre la discrimination positive. Quels sont les leviers que nous avons? Y a-t-il des règles qu'il faudrait nous imposer pour que ça marche cette expérience?
Pour moi, le fait fondamental, c'est qu'on vit, on veut vivre dans des démocraties libérales. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de décisions qu'on prend à majorité, mais il y a aussi des champs de notre vie dans lesquels on a la liberté de se dire soi-même. C'est-à-dire que la majorité ne peut pas dire quelle croyance religieuse avoir, qui est invité à dîner, quelle opinion avoir. Mm-hmm. Et ça veut dire certainement que les gens qui viennent, par exemple, d'une minorité culturelle ou religieuse, ont le droit de suivre ces croyances, mais ça veut aussi dire, par exemple, que les groupes ne l'ont pas le pouvoir d'imposer ces croyances à ses propres enfants, à d'autres membres de leur communauté. Du coup, oui, il faut des règles très claires, et un des enjeux de ça, c'est qu'il faut rejeter un communautarisme qui veut rendre pas le citoyen la base de la société, mais plutôt le groupe ethnique ou religieux.
À quel moment on saura, selon vous, est-ce que c'est vraiment une question de temps maintenant, et quand je dis temps, c'est une histoire de 10 ou 20 ans, à quel moment on saura qu'on a réussi cette expérimentation-là, et où, à l'inverse, qu'on l'a complètement ratée, et que du coup nos sociétés sont en danger, plus encore peut-être qu'elles le sont aujourd'hui?
Peut-être, j'ai une vue assez tragique de l'histoire.
Ouais.
Si on regarde le passé, je suis historien à l'origine, il y a toujours eu des siècles de tolérance, des siècles des sociétés qui ont eu beaucoup de succès. Et après ça, il y a eu des périodes dans lesquelles ces sociétés mêmes sont tombées dans le conflit, dans la guerre civile, dans des génocides. Alors malheureusement, je ne crois pas qu'on arrivera à un point dans lequel on peut dire il n'y a plus de danger, le futur est assuré. Mais certainement, on peut créer une société dans laquelle les liens entre des citoyens de différentes origines sont de plus en plus forts et dans lequel on partage, par exemple, un patriotisme inclusif qui est vivante et authentique.
Yeshamung, cette transition est un petit peu raide, mais ce fameux patriotisme inclusif, justement, on a l'impression qu'un pays comme les États-Unis a à la fois réussi à certains égards, vous l'avez un petit peu évoqué, est en train de le rater aujourd'hui intégralement. Alors bien sûr, on n'est pas dans un contexte de guerre civile, ça n'a rien à voir, il ne va pas y avoir de morts au stricto sensu comme il y en a eu au 19e siècle. Néanmoins, est-ce que vous diriez que précisément ce pays est en train de rater sa grande expérience, en fait, sa grande expérience personnelle?
Oui et non, c'est un peu paradoxal. Sur le plan ethnique, le pays est beaucoup plus mixte de ce qu'on voit. Il y a une manière de penser la politique qui est très partagée parmi l'élite politique américaine, à droite et à gauche, qui voulait dire plus ou moins que le conflit fondamental de l'Amérique, c'est les blancs sur un côté et ceux qu'on nomme les people of color, les non-blancs sur l'autre côté. Mais si on regarde qui vote pour qui, ce n'est pas du tout le cas. Mm-hmm. Joe Biden, il a gagné l'élection il y a un an. Pourquoi? Parce qu'il a eu un score beaucoup supérieur de Hillary Clinton parmi les blancs. Mm-hmm. Et Donald Trump, pourquoi est-ce qu'il aurait presque gagné? Parce qu'il a fait de grands progrès des votes parmi les noirs, parmi les hispaniques, particulièrement parmi même les asiatiques. Mais ce qu'on n'a pas du tout, c'est une adhérence au principe démocratique le plus fondamental comme l'intégralité des élections.
Et alors justement là-dessus, est-ce qu'il y aura des élections dans un an aux États-Unis qui inquiètent beaucoup de gens? Est-ce que, fort de ce que vous venez de dire, le grand risque pour la démocratie américaine, c'est pas exactement ça? Désormais, la confiance dans le processus électoral est rompue. Est-ce que c'est pas ça le début d'une démocratie qui se délite quand cette confiance-là n'existe plus?
Oui, tout à fait. Alors, c'est le cas depuis longtemps qu'il y a beaucoup d'Américains qui n'acceptent pas le résultat des élections. On a vu ça en 2000 avec les problèmes en Floride, beaucoup de démocrates qui disaient que Bush n'était pas légitime. Mm-hmm. On a revu ça en 2008, en 2016. C'est ça pas le fait nouveau. Mais le fait qu'un ex-président comme Trump dise que c'est lui le président légitime et qu'en fait l'élection a été volée et qu'il y ait beaucoup de gens qui croient à ça et le fait qu'il y a beaucoup de républicains qui essayent de changer les lois pour donner un rôle beaucoup plus grand aux élus politiques en certifiant le résultat de l'élection, veut quand même dire qu'il y a un rejet du principe fondamental de la démocratie, qui est, on n'est peut-être pas en accord, mais à la fin, on accepte d'être réglé par les élections. Si vous gagnez, je ne suis pas content, mais j'accepte le résultat.
Cela dit, à ce stade, Trump et les Républicains n'auront pas besoin de tricher pour gagner les élections à mi-mandat, vraisemblablement, et peut-être que du coup, on sera sur un autre registre.
C'est bien possible, certainement, au mi-mandat, il semble que les Républicains vont gagner. En 2024, il y a deux dangers. Le premier, c'est que les Républicains vont tricher pour que Trump soit réélu. Le deuxième danger, si on regarde les sondages, c'est que les Républicains gagnent les élections de 2024 de manière complètement légitime et qu'on aura un deuxième mandat de Donald Trump de manière légitime.
Yascha Mounk, ça s'appelle en tout cas votre livre « La grande expérience, les démocraties à l'épreuve de la diversité » publié à l'Observatoire et traduit de l'anglais par Benjamin Pellet. Je vous remercie beaucoup de
Merci
votre
beaucoup.
Passage dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès, sur France Inter.
La suite, ce soir, c'est le bruit du monde. Ça se passe dans le désert du Negev, dans une tribu de Bédouins. Israël y plante des arbres, mais au détriment des terres, les Bédouins craignent qu'on les chasse. Et les conséquences touchent à l'équilibre de la coalition au pouvoir. La troupe habituelle qui nous emmène jusqu'à 19h commence avec Sous les radars et Sébastien Legénie.
On ira dans les favelas de Rio que le président brésilien Bolsonaro s'est mis en tête de reconquérir avant l'élection présidentielle.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, c'est Angélique Bouin. Bonsoir Angélique.
Bonsoir, on va parler du droit à l'avortement. Au Parlement de Strasbourg, Emmanuel Macron met les pieds dans le plat.
Le monde d'après, Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir à tous. Joe Biden fait un étrange aveu sur la désunion occidentale face à la Russie. Alors, honnêteté, maladresse, calcul, on va s'interroger.
Allez, à tout de suite, tout le monde, le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par le Royaume-Uni et de Smile, You Will Never Work in Television Again. Je ne sais pas qui parle.
Be
Le bruit du monde ce soir est dans le désert du Negev, dans le sud d'Israël. Depuis 10 jours, le secteur est régulièrement secoué par des affrontements entre les Bédouins et la police israélienne. Les Bédouins dénoncent un projet de plantation d'arbres par le Fonds National Juif qui gère les forêts en Israël. Ils accusent l'État de vouloir en fait confisquer leurs terres pour les expulser. Et vous allez le voir, l'affaire a des conséquences politiques pour la fragile coalition au pouvoir en Israël. Nous sommes près du village bédouin d'Alatrache et le reste, c'est Frédéric Mettezo qui raconte.
Sur l'immense étendue, jaune et ocre, on voit encore les marques des pneus des bulldozers et des camions venus niveler le terrain. Le sable et les cailloux accumulés en tas n'ont pas encore été enlevés. Ibrahim est un riverain.
Ils sont arrivés soudainement. Personne ne savait qu'ils allaient venir avec leur tractopelle. On aurait dit qu'ils étaient là pour faire la guerre. Ils nous considèrent comme des terroristes et donc ils se donnent le droit de prendre nos terres. Et évidemment, nous nous sommes interposés et c'est là qu'il y a eu des interpellations. Ça a dégénéré en affrontement, alors ils ont déployé davantage de policiers. Même des mineurs, des enfants, filles et garçons ont été tabassés. Plusieurs personnes sont toujours détenues. De toute façon, tout a été filmé, nous avons des vidéos.
Sur ces vidéos, on voit effectivement des policiers charger la foule et parfois blesser de jeunes adolescents. Du côté des Bédouins, certains jeunes s'en sont pris aussi à des journalistes. Ce jour-là, les policiers israéliens postés en permanence sur le site viennent nous contrôler. Aimable mais ferme, la future zone de plantation des eucalyptus est interdite d'accès.
Interdit ?
Oui. Merci beaucoup.
D'accord.
Pour Saja, c'est bien la preuve qu'il s'agit d'une démarche politique.
Planter des arbres, c'est juste un prétexte pour s'approprier nos terres. À partir du moment où une parcelle est délimitée par des arbres, ils considèrent qu'elle ne nous appartient plus. Si leur objectif était réellement le boisement, pourquoi toute cette répression qui vise sans distinction les adultes et les enfants ? Pourquoi ils utilisent des grenades assourdissantes ? En fait, ils ne veulent pas seulement planter des arbres, mais plutôt planter la peur en nous.
Les Bédouins sont des Arabes du désert, nomades à l'origine, vivant un peu partout au Proche et au Moyen-Orient. Plusieurs milliers d'entre eux sont devenus citoyens israéliens. Ils se sont sédentarisés, mais à partir des années 70, l'État a voulu les installer dans des villes dortoirs, aux portes du Negev. Pour Aouda Alatrache, le père de Saja, les projets de plantation préparent de futures expulsions.
Ils veulent nous enfermer dans des boîtes de sardines. Nous sommes des Bédouins, notre mode de vie est différent. Nous sommes proches de la nature, nous sommes des éleveurs. Nous avons des troupeaux. Nous ne pouvons pas vivre en ville. Nous avons toujours vécu comme ça.
Ces terres étaient à nous bien avant la création d'Israël, il y a 70 ans. Nous avons toujours vécu ici. Ce sont eux, les Juifs, qui sont les étrangers. Ils sont venus des quatre coins du monde pour coloniser notre terre. L'État confisque nos propriétés pour les donner ensuite à des colons juifs. Les uns viennent de Russie, les autres d'Éthiopie et de plein d'autres pays encore.
À l'écart de la route nationale goudronnée, des pistes caillouteuses et inconfortables conduisent à des maisons en dur mais spartiates. Ces villages bédouins, que l'État ne reconnaît pas officiellement, ne sont pas raccordés au réseau public d'eau et d'électricité. Il n'y a pas de transport en commun, mais leurs habitants vont à l'école et bénéficient du système de santé publique. Insuffisant pour Saja, à 18 ans, elle aimerait vivre mieux et devenir journaliste.
Nous avons la nationalité israélienne, mais aux yeux de cet État, nous sommes des sous-citoyens. Nous vivons dans un dénuement total, la vie ici est extrêmement difficile. Je viens de finir le lycée et je rêverais de pouvoir poursuivre mes études. Mais comment sortir d'ici ? Nous n'avons même pas de route. On n'a ni eau, ni électricité. Nous ne disposons même pas des commodités de base. Et nous ne sommes pas les seuls à vivre dans cette situation. Dans le Negev, il y a 34 ou 35 villages où des Bédouins vivent dans des conditions aussi précaires que nous. Et pourquoi ? Parce que l'État souhaiterait confisquer nos terres et nous enfermer dans des lotissements.
Habitué des provocations, un député d'opposition, un juif d'extrême droite, raciste et anti-arabe, est venu ici planter une jeune pousse. Au sein de la majorité, l'ancien responsable des plantations au Fonds national juif, devenu député centriste, affirme qu'il n'y a pas d'expulsion en préparation, mais juste une préservation de la terre. Quand son collègue, au sein de la fragile coalition, Mansour Abbas, leader du parti islamiste RAM, soutient ses électeurs bédouins comme Aouda.
Tous les bédouins ont voté pour lui. C'est grâce à nous qu'il a été élu et qu'il siège aujourd'hui au Parlement. Si Dieu le veut, il doit tout faire pour mettre un terme à la confiscation de nos terres. Nous voulons des solutions.
La crise politique n'est jamais bien loin. Lundi soir, pour dénoncer ce qui se passe dans le Negev, une députée de la majorité, issue de la gauche pacifiste, a voté contre une réforme du service militaire proposée par le Premier ministre. Le projet de loi a donc été rejeté. À la trache, les Bédouins vaquent à leurs occupations, seulement dérangés par les avions de la base aérienne toute proche qui déchirent régulièrement le silence du désert.
Les armes du Negev, les Bédouins et la colonisation. Merci beaucoup Frédéric Mettezo, le bruit du monde. La suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars et c'est Sébastien Logeni. Et Sébastien, c'était il y a 8 mois d'abord, au Brésil, une manifestation à Rio après un terrible massacre de la police dans une favela.
Oui, une opération antidrogue sanglante en mai dernier dans un quartier au nord de Rio. 28 morts, certaines victimes tuées d'une balle dans la tête. Le raid policier le plus meurtrier de l'histoire brésilienne. Manifestation, condamnation de l'ONU, enquête de la justice. L'opération avait choqué tout le pays et bien au-delà. Eh bien, 8 mois après, la surprise générale, hier, les forces de l'ordre brésiliennes sont revenues dans la favela, mais avec des unités et dans une logique toute différente. 1200 membres de la police militaire déployés dans les rues, des hommes en treillis, fusils d'assaut en bandoulière, mais qui n'ont pas fait usage de leurs armes. Cette méga opération est présentée comme un début de reconquête sociale des favelas. Ce porte-parole de la police militaire du gouverneur Adrio expose en quelques mots l'idée du programme qui doit selon lui changer la vie des habitants. Patrouille de sécurité tous les jours, suivi de l'arrivée des services sociaux, de l'emploi, de la santé et de l'éducation. Bref, une opération qui a tous les attributs d'un programme politique. C'est le parti présidentiel de Jair Bolsonaro qui est derrière tout ça. Déjà critiqué par l'opposition, cette démarche qui n'y voit que des effets d'annonce dans la perspective de la présidentielle en octobre prochain. Il faut dire que les favelas, c'est un réservoir de voix important au Brésil. 11 millions de Brésiliens y vivent aujourd'hui, 6% de la population.
À des milliers de kilomètres de là, Sébastien, la Lituanie, elle se bat autour de son alphabet.
Oui, c'est un débat qui dure depuis 30 ans dans le pays, mais qui nous avait échappé. La Lituanie s'interroge sur le fait d'autoriser ou pas de nouvelles lettres dans son alphabet. Et le Parlement de Vilnius vient de trancher. Il sera possible désormais d'avoir les lettres Q, W et X dans son nom, sur son passeport ou sa carte d'identité, sans devoir passer par la justice. Ces trois lettres, Q, W et X, n'existent pas en lituanien, langue indo-européenne qui s'écrit en alphabet latin et pas en cyrillique, il faut le rappeler. Et de nombreux citoyens mariés à des étrangers ou issus des minorités voyaient donc depuis des années leur patronyme écorné, écrit de façon phonétique. La ministre de la Justice, elle-même issue de la minorité polonaise, est directement concernée. Elle pourra désormais officiellement s'appeler Evelina Dobrowolska, avec un W comme l'exige le polonais, et plus Evelina Dobrowolska avec un V. On entend là l'une des députées lituaniennes favorables à ce changement, mais pour que la loi entre en vigueur le 1er mai prochain, le président doit encore la promulguer et certains élus espèrent bien que le président y mettra son veto. Les opposants à cette évolution linguistique dénoncent une atteinte au statut constitutionnel de la langue lituanienne, un statut précieux dans ce pays qui a très mal vécu de vivre sous le joug soviétique avec le russe et le cyrillique comme langue officielle.
Allez, on termine au Sénégal avec l'arrivée d'une nouvelle école de cinéma.
Une école que l'on doit au célèbre collectif français Courtrage-Mais, ce collectif notamment créé par Ladjli, le réalisateur des Misérables. Après avoir ouvert une école à Montfermeil puis à Marseille, Ladjli était à Dakar donc pour ouvrir la première école de cinéma gratuite sur le continent africain. Ladjli, dont les parents sont maliens et qui avait depuis longtemps ce projet en tête, permettre à des Africains de se former au métier de scénariste ou de réalisateur sans frais, sans condition de diplôme ou d'âge. Le Sénégal a donc été choisi car les productions cinématographiques s'y multiplient, comme le dit le directeur de la nouvelle école.
Aujourd'hui, le Sénégal est devenu incontournable au niveau de la production production audiovisuelle, en particulier les séries. Elle accueille aussi énormément de tournages internationaux par rapport aux autres pays de la sous-région.
Voilà, ils seront une quinzaine de Sénégalais pendant les 5 prochains mois à se former au scénario, sélectionnés par des centaines, parmi des centaines de candidats. Courtrajmé qui a encore plein de projets d'implantation dans le continent, au Mali, en Côte d'Ivoire ou encore au Burkina Faso.
Merci beaucoup Sébastien Logénie, vous partez avec Julie London. Méfiez-vous, elle vous annonce The End of the World.
Why does the sun keep on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? 'Cause you don't love me anymore. Why do the birds go on singing? Why do the stars glow above? Don't they know it's the end of the world? It ended when I lost your love. I wake up in the morning and I wonder why everything's the same as it was. I can't understand, no, I can't understand how life goes on the way it does. Why does my heart keep on beating? Why do these eyes of mine cry? Don't they know it's the end of the world? It ended when you said goodbye. When you said goodbye.
Julie London, The End of the World. Avant la fin du monde, allons plutôt retrouver Angélique Bois à Bruxelles.
Je suis venu vous parler d'Europe.
The European Union. Génial.
Un jour dans le monde.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. Angélique, de retour à Bruxelles, donc, après une semaine agitée qui a été la vôtre au Parlement européen de Strasbourg, une semaine où on a aussi parlé du droit à l'avortement.
Oui, c'est un sujet sensible dans le Cénacle européen, très attaché au droit des femmes à disposer de leur corps. Sujet qui s'est donc invité dans les débats en tribune, on va l'entendre, mais aussi dans les couloirs. Jean-Marc Fourse en était fait de l'écho dans cette émission, avec l'élection mardi dernier à la présidence du Parlement de la conservatrice Roberta Metsola, une Maltaise connue pour ses positions anti-IVG. Une élection qui a mis bien des eurodéputés mal à l'aise, y compris dans le camp des macronistes, qui ont pourtant voté pour elle. Et voilà donc, hier, la surprise du chef, que personne n'avait vu venir, y compris chez les élus de sa famille politique, le président Macron qui dégaine dans l'hémicycle face à la nouvelle présidente une proposition.
20 ans après la proclamation de notre charte des droits fondamentaux, qui a consacré notamment l'abolition de la peine de mort partout dans l'Union, je souhaite que nous puissions actualiser cette charte, notamment pour être plus explicite sur la protection de l'environnement ou la reconnaissance du droit à l'avortement.
Alors non, on l'a tous entendu effectivement cette phrase, Angélique. Comment a réagi la présidente Roberta Metsola?
Eh bien, face à la presse, aux côtés d'Emmanuel Macron, juste après ce grand oral, elle n'a pas réagi, figurez-vous, à cette proposition-là, mais elle a réitéré, en revanche, son engagement à endosser un autre texte, le pacte Simone Veil, dont l'article premier, justement, garantit l'accès des femmes à la contraception et à l'avortement.
Permettez-moi de vous le confirmer, le Parlement sera bien à vos côtés dans la lutte pour les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes. Et dans ce contexte, soyez assuré, Monsieur le Président, que je suis personnellement disposé à adhérer au pacte Simone Veil.
Voilà, on l'entend parler français hein, pour la première fois. Un pacte, en fait, dont l'idée revient aux eurodéputés français macronistes. Il le porte depuis bien longtemps. Il obligera les pays qu'ils signeront à s'engager à adopter, en fait, les mesures les plus progressistes en matière de droits des femmes. Il vise aussi, je cite, à faire de l'égalité entre les hommes et les femmes un droit fondamental au cœur du projet européen. Très concrètement, parmi la liste d'engagements qui ont vocation à se retrouver dans des lois européennes distinctes, on trouve le droit à une vie de famille avec des durées minimales à respecter pour les congés maternité et paternité, ou encore le droit à un salaire égal pour le même travail. Le Parlement européen est donc, on vient de l'entendre, favorable à ce pacte, la Commission européenne aussi, mais l'idée, c'est bien sûr de le faire endosser par un maximum d'États membres progressivement. La présidence française de l'Union européenne pourrait symboliquement s'en saisir le 8 mars prochain, journée de la femme. Voilà, en tout cas, une proposition pour faire avancer le droit à l'avortement, qui est tout de même plus réaliste, Fabienne, il faut bien le dire, que celle sortie du chapeau hier par Emmanuel Macron.
Mais alors pourquoi, Angélique ?
Eh bien parce que actualiser comme il le veut la Charte européenne des droits fondamentaux, y compris en incluant le droit à l'avortement, cela semble assez irréaliste. Hein, cette charte, elle a valeur de traité, donc cela aurait évidemment beaucoup de plus de force. Mais ce sujet très sensible de l'avortement reste de la compétence des États. Changer cette charte, cela requiert l'unanimité, impossible à atteindre aujourd'hui, avec d'un côté Malte, où avorter est interdit, y compris en cas de viol, de l'autre la Pologne, où la tendance est plutôt à en restreindre l'accès aux femmes. La proposition du président français, c'est de l'affichage politique, ont estimé nombre de ses opposants. Le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune, n'est évidemment pas de cet avis. Il espère que cela pourra cheminer, hein, cette idée, dans le cadre notamment de la conférence citoyenne sur l'avenir de l'Europe. Changer les traités, ça prend certes parfois une dizaine d'années, mais c'est tout de même en lançant les débats qu'on peut progresser, tranche un bon connaisseur des négociations européennes. Et puis, on peut aussi miser sur des changements de gouvernement dans ces pays-là pour aller beaucoup plus vite, veut croire une source au sein de la majorité présidentielle.
Angélique Bois en direct avec nous, comme chaque jeudi depuis Bruxelles. Merci beaucoup Angélique.
Fabienne Synthèse, le 18-20.
Le monde d'après, Jean Marfour, le bruit de bottes, les bruits de bottes continuent de monter autour de l'Ukraine. La Russie vient d'annoncer de grandes manœuvres navales pendant que le chef de la diplomatie américaine était aujourd'hui à Kiev avant une rencontre, donc demain à Genève, avec son homologue russe. Et c'est dans ce contexte que Joe Biden, la nuit dernière, a utilisé une formule étonnante comme un aveu sur une éventuelle incursion russe en Ukraine. Et c'est votre monde d'après.
Cette formule a au moins le mérite de l'honnêteté. En gros, le président américain estime probable que Poutine fasse quelque chose en Ukraine, pas une grande invasion, plutôt une incursion mineure. Et il juge tout aussi probable que dans ce cas de figure, les Occidentaux se retrouvent divisés. Je cite, à nous disputer entre nous sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. C'est cash, Joe Biden dit tout haut ce que beaucoup de diplomates reconnaissent tout bas. Et de une, Vladimir Poutine n'a pas massé 100 000 hommes aux frontières de l'Ukraine pour ne rien faire et il a placé la barre trop dans ses exigences pour ne pas agir. Mais il ne prendra sans doute pas le risque d'une guerre ouverte. Il se contentera d'avancer un pion, la même stratégie qui l'a conduit par le passé à occuper la Crimée et à soutenir les séparatistes russes à l'est de l'Ukraine dans une guerre qui ne dit pas son nom depuis 8 ans. Et de deux, le fait est que face à une agression russe indirecte ou de petite ampleur, les Occidentaux ne seraient sans doute pas d'accord entre eux. La ligne de partage est déjà perceptible en fait. D'un côté, Washington et Londres envoient des armes à l'Ukraine, en partie via les Pays-Baltes. De l'autre, Berlin se refuse au contraire à envoyer des armes. Et Paris insiste sur la nécessité pour l'Europe de conserver son canal de dialogue avec Moscou, indépendamment de l'OTAN.
Voilà, sauf que ça sonne quand même un peu comme un aveu de faiblesse.
Oui, bah ça c'est le problème. D'ailleurs, c'est pour ça que normalement, le langage diplomatique n'est jamais 100% honnête. Hein. Vous savez, il y a toujours une part de poker menteur, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. En l'occurrence, la formule apparaît presque comme un blanc-seing accordé à Poutine. Contentez-vous d'une incursion mineure, ça passera. Et comme un acte d'impuissance occidentale, de notre côté, nous sommes incapables de nous mettre d'accord. Donc ça ressemble un peu à une boulette. Résultat, Joe Biden a essuyé dans la foulée une volée de bois vert, d'abord sur la scène politique intérieure américaine, où plusieurs sénateurs de l'opposition républicaine, Tom Cotton, Marco Rubio, lui ont reproché de donner un feu vert à Poutine. Ensuite, à l'étranger, notamment à Kiev, bien sûr, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé cet après-midi cette notion d'incursion mineure qui n'existe pas. D'ailleurs, dans la foulée des propos de Biden, la Maison Blanche s'est retrouvée forcée de rectifier le tir. Elle l'a fait avec empressement. Rectifier le tir, c'est le cas de le dire. La porte-parole de la présidence a souligné que toute agression russe provoquerait une réaction ferme et unie. Et elle a ajouté que Joe Biden voulait en réalité faire la distinction entre une attaque militaire et une attaque d'un autre style, type cyber. Bon, résumé, boulette hein, quand même.
Donc, la boulette. Donc cet aveu, c'est à la fois de l'honnêteté et de la maladresse.
Et une troisième option, c'est l'option du calcul délibéré. Je m'explique. Ce propos peut d'abord être une façon pour Biden de montrer aux pays de l'Est de l'Europe, l'Ukraine, la Pologne, les Pays-Baltes, que seuls les États-Unis sont un partenaire fiable pour les protéger de la menace russe. Il peut aussi constituer un rappel à l'ordre aux Européens de l'Ouest, cette fois. Rangez-vous derrière nous, sinon vous serez partiellement responsable d'une éventuelle agression russe en Ukraine. Berlin rentre d'ailleurs un peu dans le rang, hein, en se disant désormais prêt, en cas de conflit, à fermer le gazoduc Nord Stream 2 avec la Russie, malgré l'enjeu économique énorme. Enfin, dernière hypothèse, la plus spéculative, mais certains diplomates la formulent sous le couvert de l'anonymat. L'hypothèse d'un grand marchandage en cours entre Moscou et Washington, qui porterait non seulement sur l'Ukraine, mais sur d'autres dossiers, le commerce, l'énergie, l'attitude face à la Chine et surtout le nucléaire iranien. C'est l'autre grand enjeu diplomatique aujourd'hui sur la table. Les négociations avec les Iraniens n'avancent que très lentement. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, l'a déploré cet après-midi. Alors de là à imaginer un big deal en coulisses, il n'y a qu'un pas. Une petite marge de manœuvre accordée à Moscou sur l'Ukraine contre un appui des Russes pour faire pression sur Téhéran sur le nucléaire. Et tiens, justement, le président iranien était hier à Moscou. Bon, c'est du jus de crâne, c'est vrai, mais c'est possible. Joe Biden est trop expérimenté en politique étrangère pour que ses propos sur l'Ukraine relèvent uniquement de l'honnêteté ou de la maladresse.
Jean-Marc Fourré, Le Monde d'après, tous les soirs dans Un jour dans le monde. Merci Jean-Marc. Le 18-20, la suite, c'est dans un tout petit instant avec le journal d'Hélène Philly. Et puis le téléphone sonne. Bonne soirée avec nous, ne changez rien.